France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur France Info, il est 6h30 pour la matinale. Ce matin, dans Ça m'intéresse, nous allons débattre autour de l'intelligence artificielle. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? L'intelligence artificielle, ou IA, est un ensemble d'algorithmes qui confère à une machine des moyens d'analyse et de décision afin de s'adapter à différentes situations. Elle s'applique aujourd'hui à tous les secteurs d'activité, que ce soit les transports, la santé ou l'industrie. Nous allons, avant de nous prononcer, écouter ce qu'en dit Jean-Gabriel Ganassia, chercheur en intelligence artificielle.
Ganassia.
Il y a énormément de domaines où les performances des programmes d'intelligence artificielle sont supérieures à ceux des hommes. La question, c'est de savoir est-ce que les machines sont meilleures que nous tout le temps sur l'ensemble des tâches. Non, les machines sont spécialisées sur une activité particulière où elles peuvent nous dépasser. Et justement, ça veut dire qu'il ne s'agit pas avec la machine d'avoir un alter ego, c'est-à-dire un double de nous-mêmes qui nous renverserait. Au contraire, il s'agit d'être accompagné, de faire faire à la machine ce que nous faisons mal, parce qu'elle le fait mieux, mais pour la servir à nos propres besoins.
N'oubliez pas d'interagir avec nous sur le Twitter avec le hashtag « Ça m'intéresse ». Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, à notre table, nous recevons un scientifique, Mathis Hervault. Vous êtes neurologue et vous avez un avis négatif sur l'IA et vous êtes là pour défendre ce point de vue. En 1998, vous avez écrit un livre concernant le cerveau, Les mystères du cerveau, aux éditions Lamartine. Pour vous accompagner, nous retrouvons Alex Citoyen, un ex-employé de chez Casgrain qui travaillait à la chaîne et qui a été remplacé par une machine.
Je tiens à faire une petite dédicace à mes collègues hein, qui m'écoutent actuellement.
Ex-collègues, du coup.
Alors, c'est pas la peine de rappeler.
Excusez-moi. Vous suivez donc l'avis de notre scientifique et êtes donc là contre les IA. À ma gauche, nous retrouvons Philippe Politique, ministre secrétaire d'État chargé du numérique. En 2017, vous avez écrit un livre « L'évolution de la technologie » aux éditions Plon. Et vous êtes pour l'évolution des intelligences artificielles.
Totalement.
Pour vous accompagner au cours de ce débat, nous retrouvons Martin Industriel.
Bonjour.
Bonjour. Cadre chez Sony. Vous allez suivre du coup le débat en tant que personne favorable à l'évolution des intelligences artificielles.
C'est cela.
Est-ce que cela vous fait peur? Est-ce que les intelligences artificielles vous font peur?
Alors personnellement, en tant qu'industriel, l'IA ne me fait absolument pas peur. Elle me fascine plus qu'autre chose, j'ai envie de dire, puisque c'est grâce à elle que nous allons évoluer au final. L'homme ne peut se permettre de stagner, à un moment il doit forcément évoluer vers de nouveaux horizons, faire face à ses problèmes, et je pense que l'IA, de nos jours, peut nous aider dans la résolution de ses problèmes et à avancer, évoluer.
D'accord, on va faire un petit tour de table, donc monsieur Hervault, qu'en pensez-vous ?
Non, j'ai pas peur de l'IA, parce que dans mon métier, je suis capable de faire mon travail tout seul, mais j'ai peur pour remplacer certains métiers dans l'industrie. L'IA peut remplacer dans certains métiers dans l'industrie, donc c'est pour ça que ça me fait peur. Ça me fait peur pour les citoyens de nos jours.
Ok. Monsieur Alex Citoyen, qu'en pensez-vous ?
Bah, moi, ça me fait plus que peur, vu que j'ai été viré à cause de ça, mais c'est un fléau, j'ai envie de dire, surtout pour...
Un fléau condition. À ce point-là ?
Tous mes collègues et moi-même ont été remplacés par une série de machines, alors... Je vous ai expliqué dans le futur mon point de vue plus concret là-dessus, mais pour moi, oui, c'est un fléau.
Et n'avez-vous pas le moyen de vous adapter plutôt à ces machines ?
Bah, actuellement, je suis en train de suivre une formation, mais bon, on va dire que les formations qui sont à disposition des personnes, dans mon cas, ne sont pas à la hauteur de nos espérances et ne sont pas à la hauteur des... Enfin, comment dire ? Ne vont pas nous emmener sur des emplois, entre guillemets, que nous pouvons atteindre, car ça va être d'autres employés qui auront beaucoup plus de qualifications que nous, auront un diplôme concret, contrairement à nous qui aurons juste une simple formation dans le secteur de l'industrie, du travail à la chaîne, en général.
Vous pensez peut-être à changer de profession, non ? Changer de voie ?
Vous savez, ça, c'est toute ma vie, travailler à la chaîne. Après, changer de vie, je pense pas que je vais élever des caribous dans l'ASK, vous voyez. Mais... On va essayer de recontacter d'autres entreprises et d'être embauché chez une entreprise qui respecte mon travail, contrairement à Casgrain.
Je comprends votre point de vue. Monsieur Littic, qu'en pensez-vous ?
Moi, à titre personnel, je trouve ça assez fascinant quand même qu'on puisse intégrer les IA dans notre quotidien. D'ailleurs, c'est déjà le cas, hein, notamment avec les téléphones portables, les portes automatiques, tout ce genre d'objets. Et à l'image du gouvernement, je trouve ça quand même assez incroyable que le gouvernement soit pour. C'est-à-dire qu'on a débloqué pour la recherche et l'enseignement supérieur 28 milliards cette année. Donc c'est pas rien, c'est un impact et ça prouve qu'on s'investit dans tout ce qui est IA.
Ok. On voit aujourd'hui émerger par exemple les drones, les voitures autonomes. Est-ce que cela ne soulève pas un problème d'éthique finalement ?
Un problème d'éthique à quel niveau ? C'est-à-dire
Au niveau par exemple sur la sécurité humaine ou même la sécurité des données par exemple ?
Sur la sécurité des données, non, je pense pas. C'est encadré. On a des normes européennes, c'est simple. Par exemple, si vous craignez pour votre image, par exemple, peut-être. Oui, écoutez, pour vous c'est un peu compliqué, hein, vous n'avez plus d'emploi, mais la sécurité, moi je parle par exemple, si vous avez peur d'être pris en vidéo, par exemple, utilisé dans une base de données, tout ça c'est réglementé, notamment par le droit à l'image et le droit à l'anonymat. Donc à ce niveau, moi je pense pas que ce soit un problème, puis généralement tout est assez bien sécurisé au niveau de l'Europe.
Mais toutes les informations qu'on met sur Internet et tout, ils sont pas du tout anonymes, ils sont tous stockés dans des grandes bases de données que possèdent les GAFAM. Et donc, du coup, on n'a plus de vie privée.
Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez expliquer ce que sont les GAFAM ?
C'est les 5 grosses entreprises, Google, Amazon, Facebook, Microsoft et...
Apple ?
Apple, voilà, c'est ça, merci.
Alors, pour répondre à sa question, bon, en effet, ce n'est pas forcément mon secteur d'activité, je suis plus dans l'industrie, mais j'ai envie de dire, à chaque nouveauté, c'est problème. Mais c'est à nous de... en évoluant, trouver des solutions à ces problèmes. Il y en a déjà aujourd'hui concernant la vie privée. On peut déjà facilement se prémunir, se protéger contre les problèmes que cela peut engendrer. Et on continue continuellement d'évoluer et d'essayer de régler ces problèmes. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Les IA, malgré tout, même si ça fait déjà 5-10 ans qu'on commence à avoir quelque chose de réel, c'est quand même très peu. 10 ans, c'est rien dans l'évolution. On peut le constater et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Ils ont été scientifiques aussi, disant c'est rien en évolution.
Oui, c'est rien, mais ils ont résolu quel problème pour l'instant ?
Mais beaucoup.
Nickel.
Dites-moi les problèmes. Piquer mon travail.
Hein ?
Dites-moi les problèmes.
Voilà les problèmes.
Dites-moi les problèmes qu'il y avait 10 ans et.
Et monsieur, ça a permis de remplacer son travail de
il y a 10 ans, je travaillais. Et maintenant ?
Mais monsieur n'a pas eu de chance, c'est pas le cas partout.
Ah ouais, c'est le cas de beaucoup de gens.
Il l'a dit lui-même, il est déjà dans une formation pour se réinsérer.
En effet, ça n'était pas suffisant. Hein.
Il y a des inégalités, monsieur. Le monde est injuste et je le conçois. Malheureusement, ce n'est pas à moi de vous aider. Je ne suis pas prédisposé pour faire ça, mais je pense que de toute manière, les inégalités persisteront. Il y aura toujours du personnel intermédiaire qui sera remplacé par du personnel hautement qualifié. Mais de toute manière, dans le monde aujourd'hui, la demande est infinie et l'offre est limitée. Il y aura donc toujours du travail pour vous. Même si forcément ce ne sera pas dans le domaine que vous souhaitiez.
Si je peux revenir sur 2-3 points. Tout d'abord, les GAFAM. Donc, vous m'avez parlé de GAFAM, d'entreprises privées. Nous, au gouvernement, on utilise des bases de données sécurisées, notamment pour tout ce qui est la police. C'est peut-être une des seules fois où on s'autorise une base de données. Et encore une fois, c'est réglementé par le fait que c'est des personnes qui ont commis des violations de loi. Et on est donc sur 18 millions de personnes recensées, 9 millions accompagnées de photos, et ça, c'est 100% sécurisé. Les GAFAM n'ont rien à voir avec ça. Donc si vous allez sur Google, vous inscrivez et on vous pique vos informations, ça n'a pas de rapport avec nous, le gouvernement. C'est pas de problème.
C'est vous qui quand même nous représentez. Vous nous représentez à l'échelle mondiale, nous représentez aussi contre les GAFAM, c'est à nous de nous représenter, de sécuriser notre vie privée.
Mais personne ne vous force à être sur Google. Si vous êtes contre, ne l'utilisez pas.
Mais
si vous utilisez Google, c'est que vous êtes conscient que ça apporte un réel plus à votre vie.
Bah oui, c'est pour mettre mon livre en vente, pour développer mes recherches, c'est pour présenter tous mes résultats. Ça me permet aussi d'être reconnu mondialement dans mon domaine.
Donc Internet permet de développer vos recherches, donc ça vous est utile quand même.
Non, de permettre de présenter mes recherches pour les montrer à mes autres collègues.
Pour vous, Internet, c'est un moyen de communication plus qu'autre chose?
De communication et puis de... Oui, de communication.
Ouais, c'est aussi un moyen de recherche. Moi, je recherche dans l'entreprise actuellement, mais on parlait de la sécurité. Si je fais des recherches sur les entreprises ou autre chose, je n'ai pas envie que mes données circulent n'importe où. Et vous disiez que vous n'aviez pas de pouvoir, entre guillemets, si on veut utiliser ça, c'est notre problème. Mais vous qui êtes en politique, si par exemple le président de la République dit qu'on va fermer tous ces sites-là, il a le pouvoir de le faire.
Il a le pouvoir exécutif, certes, mais ça ne se fera pas. Vous le savez très bien. Ce n'est pas une conclusion. On ne peut pas fermer. De toute façon, on est dans un monde mondialisé, monsieur, quand même. Un peu de bon sens. Je veux dire, on est dans un monde mondialisé, on a besoin d'Internet. Il n'y a pas photo là-dessus.
Oui, sauf que si on leur met un ultimatum, ils vont forcément...
Ça ne marche pas comme ça, la vie.
Ça ne marche pas comme ça.
On n'a pas d'ultimatum.
En Chine, ils interdisent un site. Terminé.
Pas en Chine.
Par exemple, oui, non, mais c'est un exemple. Pur et simple.
En Chine, dans ce cas.
Excusez-moi.
C'est un exemple.
D'accord.
Par exemple, sur Google Maps, la délimitation des pays se fait en fonction de la localisation. En Chine, par exemple, la mer qui est à côté, elle est délimitée en fonction de où vous vous situez, par exemple, en Chine, ou alors, par exemple...
Oui, ça soulève des problèmes géopolitiques.
Non, mais c'est pour revenir à ma question, à mon affirmation, que si le gouvernement veut encadrer quelque chose, il a le pouvoir de le faire. Pas comme votre fuite de tout à l'heure.
La fuite.
Hein?
Pardon. Moi, je veux...
Oui. Pour revenir sur ce que vous disiez, nous sommes en démocratie et non pas en... Comment ça s'appelle?
Monarchie.
Non, pas monarchie, dictature.
Dictature.
Il est donc plus simple, il est plus simple dans les dictatures de faire autoriser une loi, de forcer le passage d'une loi, ou de forcer par exemple la suppression d'un site ou d'un organisme, alors qu'en démocratie, le peuple ne va sans doute pas être d'accord.
Totalement, si je peux revenir, on a quand même les lois sont étudiées, on a le Conseil constitutionnel pour les lois, on a le Conseil d'État, tout ça est étudié, c'est pas choisi au hasard comme ça, c'est mis en place par un système, et c'est voté, c'est avant tout, ça vient du peuple, finalement.
Oui, c'est du dialogue.
C'est du dialogue, et...
Il faudra donc que l'État avance avec le peuple pour choisir les solutions.
Ça, c'est le but de la démocratie, forcément. Et d'ailleurs, parlant de solutions, vous m'avez dit que vous n'avez plus de travail, que la réinsertion professionnelle est un peu compliquée. Nous, avec mon cabinet, on essaye notamment des projets de loi. En ce moment, on est en train d'étudier ça avec le ministère de l'Intérieur sur la réinsertion plus facile. Et on aimerait garder le statut de travailleur à une personne qui a été, malheureusement, comme vous, virée. Pas dans les
licencié.
Bonnes conditions, licencié.
Je préfère ce terme.
Excusez-moi. Désolé de vous avoir enfoncé, mais licencié dans les. J'imagine pas les conditions les plus idéales. On aimerait un statut qui assure de 6 mois, pendant 6 mois après le licenciement, un statut de travailleur. Donc ça encourage.
Oui, mais j'ai envie de vous dire, si je suis licencié et que j'arrive pas à trouver du travail, rien qu'un statut, ça n'a pas forcément.
Forcément, nous, après, on peut pas vous donner infiniment d'argent, je suis désolé, c'est comme ça que ça marche. La vie, on peut pas tout. On vous donne 6 mois. Sur une réinsertion professionnelle, on a des formations forcément qui suivent avec. Et c'est pour justement, le statut de travail ne vous fera pas de problème au niveau de la retraite, c'est-à-dire que vous serez quand même considéré en tant que travailleur. Et vous serez aussi rémunéré, enfin pas rémunéré, mais un peu comme à l'image du chômage, subventionné.
J'espère que ça sera.
J'aimerais bien entendre le point de vue de Mathis Servo sur ce sujet.
Mais votre projet de loi ne pourra pas. Ne pourra pas correspondre à tous les citoyens. Il faudra faire une reformation pour tous les domaines où l'IA sera présente dans tous les métiers. Ça sera possible?
Ça sera possible. Après, c'est du cas par cas, forcément. Donc, on étudiera le cas. Déjà, il faut que ça soit valide. Il faut que ça soit vraiment un licenciement abusif. Et ensuite, sur la période des 6 mois, on essaye au cas par cas. Comme, vous savez comment marche Pôle emploi, par exemple. C'est du cas par cas. On vous donne des rendez-vous. On essaye de vous aider. Après, on vous donne un peu, vous nous donnez, on marche dans ce sens et on s'entraide.
J'aimerais intervenir. Si vous dites que ce sera difficile de donner des cours pour accéder à des formations pour différents métiers. Sauf que si l'IA a réussi à intégrer telle entreprise ou tel corps de métier, ça veut dire qu'il y a des gens compétents là-dedans et du coup, il n'y a pas de souci pour proposer des formations.
S'il y a aussi, il y a forcément des gens qui ont été virés Et donc il y aura toujours un souci de reformation et qui va correspondre à leur domaine. Ils vont pas faire une formation parce qu'ils sont obligés de retrouver un métier qui va pas leur correspondre.
Faut vivre un moment, je suis désolé, mais aussi, vous parlez que des côtés négatifs, faut pas oublier que l'IA, ça crée de l'emploi, plus qualifié,
oui, plus qualifié.
Plus qualifié, donc forcément plus d'argent.
Oui, plus d'argent pour les personnes qui sont en capacité de le faire.
En capacité
de le faire. Mes collègues qui sont polonais, quand ils sont venus en France pour travailler, là déjà, ils ne parlent pas très bien français.
Ouais.
Vous pensez qu'une formation, où il faut quand même bien connaître le français, va les aider à trouver un meilleur emploi dans une entreprise. Même la formation ne pourrait même pas leur convenir.
Est-ce qu'ils ont la nationalité française, vos amis polonais ?
Non, ils sont travailleurs.
Eh bien, écoutez, moi, c'est méchant, peut-être dit comme ça, mais moi, je favorise les Français, tout simplement. La population française.
Moi, je suis français.
Vous êtes français ? Eh bien, très bien. Moi, comme je vous ai dit, vous êtes français, moi, je vais me reformuler l'avantage du peuple français. C'est-à-dire qu'à l'échelle nationale, certes, il y aura des emplois non qualifiés. Le travail la chaîne qui seront supprimés, mais d'un autre côté il y aura des emplois plus qualifiés et forcément tout ça engendre une hausse économique, le PIB par habitant qui augmenterait dans ces cas-là et tous ces problèmes. Après je suis désolé hein, mais c'est la concurrence, on est dans un système capitaliste, faut se battre pour réussir.
Comme monsieur le dit, c'est la concurrence, au final les deux voies mènent au même chemin. Une entreprise qui n'utilise pas d'IA aujourd'hui, je lui donne moins de 2-3 ans avant de faire faillite et avant d'être bouffé par la concurrence, si je peux me permettre les termes.
Oui.
Donc au final, l'entreprise est dilapidée, les employés perdent leur travail. Si l'entreprise prend une IA, il conserve sa place dans le marché et les gens perdent leur travail. Au final, beaucoup de gens qui perdent leur travail, oui, mais beaucoup de gens qui en gagnent aussi.
Moins que...
Pas forcément moins de gens, mais peut-être des personnes
plus qualifiées
différemment, on va dire. Pas ouais, plus qualifiées.
Ça va remplacer un autre.
C'est-à-dire que, par exemple, les qualifications que vous aviez pour travailler chez Casgrain, un nouvel employé de Casgrain qui a sans doute pris votre place pour diriger la machine, va pas avoir les mêmes qualifications, mais pour le même travail.
Je vous parle sur une production. Ouais. Admettons, il y a 20 personnes. Mm-hmm. Il va y avoir 3 machines qui vont faire cette production. Mm-hmm. Admettons, grand maximum, 5 personnes qui vont être en charge de la manutention de ces machines. Donc, il y a un décalage de 15 personnes. Donc 15 personnes par entreprise, par chaîne, c'est énorme.
Mais vous vous rendez compte de l'avantage économique de l'entreprise quand même.
Je ne vous parle pas d'avantage économique,
d'une entreprise, excusez-moi, c'est de générer du profit.
Vous pensez que quand toutes les personnes seront dans les rues, vous serez du même avis ?
Toutes les personnes, mais ça c'est faux.
Aujourd'hui, plus de 75% des entreprises n'utilisent pas l'IA. Donc si vous dites que dans 2-3 ans, les entreprises qui n'utilisent pas l'IA, ils font faillite. Si chaque petite entreprise compte au moins 50 salariés, 50 salariés de plus de 75 entreprises vont perdre leur emploi, remplacés par l'IA.
Et l'IA, je vous ai dit
aussi, après, vont recruter genre 2-3 personnes pour les surveiller. Il y aura un taux de chômage beaucoup plus important dans 2-3 ans, l'IA va créer des faillites.
Vous êtes scientifique, je vous entends lancer des chiffres au hasard.
Merci.
Vous parlez de 75%.
J'ai vu sur Internet, c'est l'IA qui les donne.
Internet. Excusez-moi, je n'ai pas une source fiable.
Je vais expliquer mon point de vue très rapidement. Aujourd'hui, le milieu du travail, c'est 60% de tertiaire. Donc c'est 60% donc, de services, donc c'est tout et n'importe quoi. Et on a 30% d'industriels. Les 30% déjà actuellement n'utilisent pas tout l'IA, ils n'ont pas tous ce besoin d'IA.
Vous avez dit que tout le monde avait...
Non, de 3 ans, ces entreprises ne seront plus.
Comment ça vous...
Parce qu'ils n'utilisent pas l'IA, donc ils vont pas...
Le monde avance, on ne vous attend pas, la concurrence...
Mais il vient de dire qu'on allait les attendre, qu'il y avait quand même des entreprises sans IA.
Mais oui, mais ça va se faire... Allez-y.
Excusez-moi, je crois que vous mélangez tout, effectivement.
Oh, je pense que c'est vous qui mélangez.
Les entreprises qui font face à une concurrence qui utilise l'IA parce qu'ils ont besoin des IA n'auront pas le choix de passer à l'IA.
Et s'ils peuvent pas ?
Mais pourquoi ils ne pourront... Je comprends pas leur
argument. Si financièrement ils peuvent pas payer leurs IA.
Écoutez, c'est la concurrence, c'est comme ça que ça marche.
Ah oui, donc du coup,
c'est comme ça que ça marche.
Plus de chômage.
Et vous allez pas nous, enfin, leur fournir des...
Non, mais moi, je vois le bon côté de la chose. Je vous ai dit.
Le bon côté de la chose, c'est perdre des emplois.
Non, ce n'est pas la perte.
J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. On vient de recevoir un tweet de Tristan qui nous dit ne pensez-vous pas que l'IA puisse faire évoluer la science, que ce soit dans la médecine, la découverte du monde, ou de l'espace même ?
Je vais parler un peu de ça, bien sûr, évidemment. L'IA, c'est la solution aujourd'hui pour évoluer. Tout simplement parce qu'elle est supérieure à nous, que ce soit en termes scientifiques, en termes. Par exemple, l'IA peut déceler et interpréter des données qui sont non détectables par l'humain. Aujourd'hui, l'humain est. Certaines tâches qu'il n'est pas capable de faire, des super. Les IA sont vastes. Les IA peuvent être des robots qui usinent des pièces, ou les IA peuvent être des super calculateurs qui donc font des calculs. Et c'est ça aussi, donc forcément on aura forcément besoin des IA dans l'avenir, puisque c'est l'ouverture des frontières du possible. C'est ce qui nous permettra de passer à autre chose. Vous pensez qu'on peut aller dans l'espace sans une IA par exemple?
S'il y a des risques de problèmes de calcul et que c'est l'IA qui fait le calcul, comment vous pouvez vérifier? Parce que c'est l'IA, c'est l'homme qui a construit l'IA.
Bah, ça dépend du domaine, si ça marche pas à la fin, c'est que c'est calculé mauvais, et on revoit.
Et l'IA pourra se corriger tout seul?
Pas forcément, faut l'aider au début. Je ne peux pas prévenir l'avenir, monsieur, je suis pas devin, je sais pas comment cela va évoluer, mais pour l'instant, actuellement, aujourd'hui, l'IA a besoin d'aide, a encore besoin de nous. On l'assiste, on vérifie, on contrôle.
On l'assiste, ou c'est l'IA qui nous assiste?
Un peu des deux, c'est complémentaire. L'IA et l'homme font un travail qui permettent.
Pardon ? C'est un tandem pour vous ?
Je pense que de toute manière, oui, voilà, c'est exactement ça. Aujourd'hui, l'homme, au point où il en est, ne peut évoluer sans l'IA, et l'IA aujourd'hui ne peut fonctionner correctement sans l'homme.
Vous ne pensez pas que l'IA est capable de se développer elle-même par son matin ?
Actuellement, non. Elle rencontrera trop rapidement un problème qui l'heurtera et la stoppera. Mais. En effet, dans le futur, c'est fort probable que l'IA nous surpasse et deviendra peut-être un problème. Et c'est à nous de faire attention, d'évoluer avec elle, de contrôler. Et
voilà. Si ça devient un problème, vous n'avez pas peur pour votre entreprise? Si c'est l'IA qui prend le pouvoir?
Excusez-moi, avec si, on refait le mot. Je peux me permettre de le dire. Là, on est dans des si. Il y a un moment, vous parlez.
Sinon, on voit que le côté positif. Et...
Non, justement, vous n'évoquez que le côté
la
négatif.
Vie est pas rose, hein.
Non, mais la vie n'est pas rose, la vie est grise, en effet. Donc, il y a le facteur.
Que vous devez parler du côté positif. Vous dites
non, mais là, je vais parler donc le côté négatif des IA, les problèmes. S'il y a un personnel compétent, normalement, ça évolue. Les problèmes, ils se raréfient. Mais
les problèmes, ça existe toujours, il y en a toujours.
Merci. Donc, je reprends. Vous avez peut-être oublié aussi le facteur humain. C'est simple.
Vous l'avez oublié pour les entreprises.
Non, mais je vous parle du facteur humain.
Sur les entreprises.
Excusez-moi, vous êtes en train de vous aider.
Nous, quand vous dites nous, vous visez qui exactement?
Les gens qui sont pour l'IA.
Bon, je pour l'IA, donc ces gens.
Genre, ils préfèrent.
Excusez-moi,
m'interrompre.
On est en train un peu de s'éloigner du sujet. Je propose qu'on change de question pour recentrer le débat. Est-ce que l'intelligence artificielle pourra-t-elle du coup un jour remplacer l'homme, selon vous?
Bah oui.
Effectivement.
C'est un petit peu mon cas.
Et messieurs,
quand vous dites remplacer l'homme, vous dites surpasser l'homme ou le remplacer définitivement?
Peut-être le remplacer définitivement plutôt.
Écoutez, c'est une question à laquelle je ne pourrais répondre. C'est possible, c'est probable. Mais.
Parce que c'est déjà le cas dans votre entreprise. Entre les IA à remplacer un peu les métiers que faisaient les hommes avant, genre il y a 10 ans, 20 ans.
Après, il reste toujours l'artisanat.
Ce qu'on fait actuellement dans mon entreprise, comme vous dites, ce qui n'est pas mon entreprise, je suis seulement cadre chez Sony. L'IA, aujourd'hui, chez Sony, permet de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire qu'on a remplacé aucun travail, puisqu'il n'y en avait pas. Je ne suis pas sûr qu'il y a 10 ans, vous pouvez écouter de la musique avec un casque Bluetooth, vous pouvez jouer à la console, tout simplement parce qu'on n'avait pas la possibilité, on n'avait pas l'interface qui permettait de le faire, les outils qui permettaient de créer les objets. Aujourd'hui, on le peut. On n'a rien remplacé. On a seulement évolué.
Oui, mais à 10 ans, on avait plus le contact humain que maintenant. Avec l'IA, on est plus indépendant. On est limite remplacé par... l'IA nous remplace un peu.
Hors les machines de production, chez Sony, les seuls IA qu'on utilise, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des super calculateurs ou des IA d'interface.
Excusez-moi, essayez de faire bref, on va devoir interrompre l'émission.
Ok, je vais faire très rapidement. Les super calculateurs, on lui demande de faire quelque chose, il produit un calcul, à nous de l'exploiter après. Il y a donc des chercheurs qui utilisent cela, et des super calculateurs, je sais pas comment dire, on n'est pas comme ça en train de parler avec la machine. On n'est pas tout seul dans notre labo, et on a 20 IA derrière, et on travaille avec elles. Non, on a 2-3 IA très performantes, qui nous produisent des données, des résultats, et avec une équipe de chercheurs, hein, je ne suis pas tout seul, on est beaucoup. Enfin, chercheurs, moi personnellement je ne suis pas chercheur, mais l'équipe de chercheurs permet d'interpréter ces résultats et d'en créer quelque chose, de pouvoir faire quelque chose.
On va devoir s'arrêter là, il est 7h, ça va passer à une autre chronique. Merci de votre présence parmi nous, j'espère que ça éclaircit certaines opinions. Et on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine matinale.